Il y a une étude qui a récemment été réalisée par l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, et qui porte sur le financement de la police au Québec. On dit que c'est un modèle à réinventer. Donc, c'est pas la première fois qu'on parle de se pencher sur le financement, de retirer un peu de financement au corps policier ou de revoir justement leur rôle, leur responsabilité, leur fonctionnement, certaines pratiques également. Donc, pour nous parler de cette étude-là, de ce qui en ressort et pour en discuter de tout ça, on est au bout du fil. Robertson Edouard, vous êtes chercheur associé pour l'IRIS. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que, comme je dis, c'est pas d'hier qu'on parle de ça, du financement des corps policiers à travers la province. Expliquez-nous d'entrée de jeu, pourquoi est-ce que l'IRIS a cru bon de se pencher sur ce sujet-là?
Ben, l'IRIS et plusieurs de ses partenaires, dont l'Observatoire des inégalités raciales, se sont rendus compte de trois choses. La première, c'est que l'institution policière fait face aujourd'hui à une crise de légitimité. La deuxième, c'est que la critique sociale de l'institution policière se fait de plus en plus grande et au point où un grand nombre d'acteurs, il y a tout un mouvement social qui appelle au définancement de la police. Et le troisième constat, c'est qu'il y a en ce moment un consensus parmi toutes les parties prenantes concernées par les questions policières sur l'insoutenabilité du modèle de financement actuel. Donc, à partir de ces trois constats, nous voulions voir qu'est-ce qu'il en était. Est-ce qu'il y avait effectivement un problème de surfinancement de la police? En fait, de quoi est-ce qu'il en était? Voilà.
Et là, l'IRIS, elle, ne se prononce pas. Elle fait un constat. Donc, quels sont les constats qui ressortent de l'étude?
Ben, on peut les résumer en trois grands constats. Le premier, c'est que en ce moment, enfin depuis plus de 20 ans, et on peut même remonter à un petit peu plus loin, les dépenses dans la sécurité publique et dans la police, d'une manière générale, augmentent substantiellement. Que l'on considère l'échelle fédérale de gouvernement, que l'on considère l'échelle provinciale de gouvernement, que l'on considère l'échelle municipale, les dépenses en sécurité publique augmentent substantiellement. À l'inverse, on s'attendrait justement à ce que, avec cette augmentation des dépenses dans la sécurité publique, que ça influence l'évolution de la criminalité. Et quand on regarde de plus près, évidemment, la tendance de la criminalité est à la baisse partout dans la province. Mais il n'y a pas de lien entre le fait d'augmenter le financement de la police et l'inclinaison du taux de criminalité au Québec, quelle que soit l'échelle considérée, c'est-à-dire l'échelle municipale analysée.
Est-ce qu'il y avait d'autres constats? Ou ce sont les principaux?
Deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'on a comparé la ville de Québec et la ville de Montréal. Parce qu'on est un peu pris presque avec cette espèce de fatalité qu'il faut absolument continuer à investir davantage d'argent dans les services policiers. Et on a vu qu'en analysant les budgets de la ville de Québec et de la ville de Montréal, qu'il y avait deux choix différents de la structure budgétaire. Tandis qu'à Montréal, la sécurité publique et la police occupe la part du lion du budget de la municipalité, à Québec, c'était pas le cas. À Montréal, c'est la première, la plus grosse dépense de la ville. À Québec, c'est plutôt le transport qui est la plus grande dépense de la ville. La sécurité publique arrive en deuxième position et des fois en troisième position, mais toujours à un niveau plus équilibré par rapport aux autres dépenses de la ville. Ce qui nous a permis de dire qu'il y a moyen de faire autrement sans que cela n'ait un impact significatif sur l'évolution de la criminalité. Troisième et dernier constat qu'on a fait, c'est qu'au fond, ce qui nous a semblé influencer la tendance dans les investissements de la sécurité publique ou dans les investissements de la police, ce n'était pas tant les données objectives, mais de préférence ce que dans le rapport nous avons appelé une panique morale. C'est-à-dire un sentiment d'insécurité qui est engendré par un événement comme par exemple un événement lié à l'utilisation des armes à feu à Montréal, ou un événement qui peut être un sentiment d'insécurité créé par vraiment quelque chose qui est monté en épingle dans les médias. Et c'est quand ces événements arrivent que tout à coup, on comprend qu'il faut encore investir encore davantage dans la police et dans la sécurité publique. Et cette façon de faire n'a pas donné les résultats escomptés, puisque plus on dépense dans la police, moins on a les résultats escomptés, moins le sentiment de sécurité de la population se renforce. Pour cette raison-là, on s'est dit que peut-être le problème était mal posé, qu'au fond, ce qu'il s'agissait, c'est d'abord de redéfinir la sécurité comme bien public, et à partir de cette redéfinition de la sécurité, faire en sorte que la sécurité ne soit pas prise uniquement dans le sens de la lutte contre la criminalité, et que ça intègre d'autres dimensions qui sont aujourd'hui les nouveaux besoins de sécurité, comme par exemple la prise en charge de populations en situation de détresse, l'intervention auprès de populations à risque et beaucoup de prévention. Des domaines dans lesquels d'autres acteurs, en particulier des intervenants sociaux, se sont montrés beaucoup plus efficaces que la police. Voilà, l'ensemble de ces constats-là nous a amenés à cette recommandation, c'est-à-dire qu'il s'agissait en fait de rediriger une partie des dépenses de sécurité publique vers des programmes de services sociaux et communautaires, en particulier vers le logement social pour les itinérants, vers l'éducation à la petite enfance et les services communautaires pour la prévention de la criminalité, notamment auprès des jeunes des quartiers défavorisés et marginalisés qui reçoivent au quotidien l'appel de groupes criminels.
Vous dites, l'étude est titrée, on dit un modèle à réinventer. J'imagine qu'il y a d'autres modèles qui existent que ceux qu'on propose ici au Québec ou en Amérique du Nord ou ce qu'on est habitué de connaître. Il y a des exemples dont on pourrait s'inspirer?
Il y a plusieurs exemples dont on pourrait s'inspirer. Le premier exemple dont on pourrait s'inspirer, c'est quelque chose qui s'est passé à Seattle, où la ville a décidé d'analyser les données du 911. Pour savoir, quand les gens appellent au 911, ils appellent pourquoi? Quels sont leurs besoins? Et ils se sont rendus compte qu'au moins 50% des appels qui sont traités au 911 et qu'on renvoie à la police auraient pu être réglés de manière plus efficace par des intervenants sociaux et non par la police. Quand quelqu'un fait une crise due à la consommation d'une substance psychoactive, une drogue, un policier, quand il intervient auprès de cette personne-là, n'a pas les compétences et les ressources nécessaires pour intervenir efficacement. La même chose quand quelqu'un a un trouble de santé mentale. La même chose pour les itinéraires, etc. Voilà autant de domaines où les appels au 911 sont dispatchés à la police pour des interventions, alors qu'en réalité, ce n'est pas des domaines qui sont liés à la criminalité. Ce ne sont pas des domaines pour lesquels les policiers sont compétents. Et dans l'étude, nous avons rapporté les données d'une autre étude qui a été faite et publiée par CBC News, qui montre clairement que dans les bavures policières, au moins 70% des personnes qui ont été tuées au Canada par la police, au moins 70% de ces personnes-là avaient un problème de santé mentale ou étaient sous l'effet d'une substance psychoactive. Donc vous voyez que ces modèles d'intervention où tout est réglé par la police, tout est réglé par le système pénal, ce modèle-là ne tient pas la route et ça entraîne des drames au quotidien. Et ce que je suis en train de dire, c'est exactement le premier constat qu'on avait fait au début dont je vous ai parlé tantôt, c'est que même la police est d'accord avec cet état de fait. Parce qu'aujourd'hui, on lui demande d'intervenir, on lui demande d'agir dans des secteurs où d'autres acteurs devraient, eux, en avoir le mandat et la mission.
Mais c'est intéressant.
Si bien que, je termine là-dessus, si bien qu'au moins dans 3 municipalités, il y a actuellement des initiatives pilotes où on jumelle des policiers et des intervenants sociaux pour précisément offrir des services de meilleure qualité à la population. à Montréal, à Sherbrooke et à Gatineau, la police a compris la nécessité d'intégrer dans ses rangs des travailleurs sociaux. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tensions entre l'institution policière, pour des raisons historiques, et certains segments très importants de la population. Je pense aux groupes racisés, je pense aux populations autochtones, mais je pense aussi aux individus qui ont un problème d'addiction. Ce sont des gens qui stressent quand ils voient une personne en uniforme. Alors, pour mieux servir ces gens-là, pour mieux leur venir en aide, ça prend des professionnels compétents qui ne portent pas derrière eux l'historique de la répression qu'incarne le système pénal et la police.
Écoutez, Monsieur Edouard, on s'en allait au même endroit parce que chez nous, vous avez parlé de certaines municipalités, mais chez nous, on a un projet pilote, ça s'appelle les équipes EMIPIC. C'est des équipes mixtes d'intervention, justement, policiers, intervenants communautaires. Ça débute chez nous, à Maniwaki, là, c'est dans les prochaines semaines, ça va être mis sur pied, ça a été annoncé. Puis c'est ça, c'est intéressant, puis c'est drôle parce que vous y êtes venu, mais vous en parliez, puis c'est là où ce que je me dirigeais également. C'est cette approche-là qu'on tente de mettre en place chez nous pour éviter de criminaliser des gens qui ne sont pas des criminels qui ont besoin de professionnels qui ne sont pas des policiers, qui ont besoin d'autres professionnels pour leur venir en aide. Ça, je pense que c'est une approche à préconiser pour éviter justement de criminaliser des gens qui sont des bons citoyens, mais qui ont peut-être, qui vivent un moment difficile ou qui ont certaines difficultés dans leur quotidien qui nécessitent justement l'approche d'un professionnel en santé ou intervenant social. Cette étude-là, j'imagine qu'on espère que les politiciens vont y jeter un œil attentif?
On l'espère. En tout cas, c'est ce que nous appelons de nos voeux. Puisque nous avons fait l'effort, justement, pour ne pas rentrer dans les controverses. Parce que c'est un sujet très controversé. C'est pour cela que nous avons évité de nous enfarger dans les débats sur le définancement. Parce qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Nous, c'est pas ça du tout le propos du rapport qui a été rédigé. Le propos, c'est justement de documenter d'abord l'insoutenabilité des dépenses de sécurité publique et de la police, notamment pour les petites municipalités, mais pour les autres, incluant Montréal. Et ensuite, essayer de montrer qu'aujourd'hui, il faut se poser à côté de la question combien investir dans la sécurité publique, comment. C'est la question de savoir comment investir dans la sécurité publique. Et pour savoir comment investir dans la sécurité publique, il faut avoir une bonne compréhension des nouveaux besoins de sécurité. Et cette nouvelle façon de voir la sécurité publique montre, met en exergue l'utilité, le rôle d'un grand nombre d'intervenants, d'un grand nombre d'acteurs autour de la table. Et là, il s'agit de mettre tout le monde qui sont concernés autour de la table pour discuter ensemble de l'identification des besoins et des ressources que chaque besoin identifié nécessite. Et c'est comme ça qu'on pourra s'en sortir et c'est comme ça qu'on peut, en même temps, améliorer le climat sécuritaire, améliorer le sentiment de sécurité de la population et en même temps offrir de l'aide aux populations vulnérables, offrir de l'aide aux individus, comme vous l'avez dit, qui sont dans une mauvaise passe dans leur vie ou aux individus qui sont tout simplement malades, puisque la toxicomanie, aujourd'hui, c'est un problème de ouais. santé mentale.
Et c'est très intéressant, puis on pourrait en jaser encore très longtemps. Malheureusement, le temps nous manque, mais bon, Robertson Edouard, chercheur associé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, merci d'avoir parlé de cette nouvelle étude parue donc chez l'IRIS qui propose de réinventer le modèle politique qu'on connaît actuellement au Québec. C'est bien apprécié, merci.
Merci de l'invitation.